Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'espion. Et c'est pas courant de raconter des histoires d'espions, et pour cause en général, on ne sait pas ce que font les espions. C'est secret, ça ne sort jamais. C'est une histoire qui commence par un énorme attentat, en 1983 à Beyrouth, au Liban, contre des parachutistes français et des Marines américains. Et là, la décision est prise de venger la France. François Mitterrand donne l'ordre à la DGSE de monter une opération de représailles. Et pour une fois, on a les détails de cette opération. Voici donc cette histoire qui débute par l'attentat du Drakkar à Beyrouth en 1983 et qui se termine longtemps après par l'exécution de son commanditaire présumé. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Cette histoire, ça pourrait être un épisode de la série Homeland ou du Bureau des légendes. C'est une histoire qui grouille d'espions. C'est la guerre, mais vue d'en dessous. La guerre qu'on ne raconte jamais. Alors voilà, je vous emmène à Beyrouth au Liban le 23 octobre 1983, tôt le matin, dans la partie ouest de la ville, devant un immeuble qu'on a baptisé le Drakkar. C'est là que sont installés une partie des 2000 soldats français qui composent avec 1600 Américains la force multinationale des Nations Unies. Un an qu'ils sont là pour tenter de mettre fin à la guerre au Liban. Revenons devant cet immeuble, le Drakkar, ce matin d'octobre 83. Vous avez vu l'état de la façade ? Elle est criblée de balles, comme la plupart des bâtiments de Beyrouth. Et maintenant, regardez le drapeau, là-haut, sur le toit. Le drapeau français. Juste en dessous, vous voyez la sentinelle ? C'est le caporal Guillemette, du 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pau. Il est 6h17 et... Ça vient du sud de la ville. Du côté de l'aéroport, perché sur le toit du Drakkar, le caporal Guillemette voit tout de suite d'où ça vient. Ça vient de l'immeuble des Marines américains.
J'ai vu l'explosion de l'immeuble américain, pas très loin du l'autre. Et je sais pas, moi, à peine deux minutes après, notre bâtiment a explosé. Il y a eu une grande déflagration et il y a eu un grand souffle. J'ai été jeté au plafond. Je me suis retrouvé quelques secondes après en bas dans les décombres.
Il est 6h24 et le Drakkar n'est plus qu'une ruine fumante et sanguinolente. Combien étaient-ils là-dedans ? Combien de morts ? Les ambulances arrivent et les paras qui ont survécu se mettent à creuser les gravats à main nue. Ils cherchent leurs copains. Et à un moment, il y en a un qui trouve un cœur humain détaché d'un corps, entre deux pierres. C'est un carnage. Assez vite, des pelleteuses entrent en action. Un engin est en train de faire basculer une dalle de béton et il voit une main qui dépasse.
Arrêtez ! Arrêtez, il y a quelqu'un en dessous !
Le sauveteur s'approche, il saisit la main, elle bouge, le gars est vivant. Et on sait qu'il s'appelle Eric parce qu'on voit dépasser sa gourmette. Pendant 4 heures, ce sauveteur va tenir cette main, le temps que ses camarades parviennent à le dégager des gravats. Un photographe de l'agence SIPA est là, il s'appelle Yann Morvan, et il prend une photo qui va faire le tour du monde. Les premiers blessés sont transportés sur le porte-avions Clémenceau qui mouille au large de Beyrouth. Et on ne sait toujours pas combien il y a de morts. Et dites-vous bien qu'au même moment, il se passe exactement le même drame au quartier général américain. Les sentinelles américaines disent qu'elles ont vu un camion foncer sur leur bâtiment.
Une extrême confusion règne dans le secteur ouest de Beyrouth. Secouristes, ambulances, pompiers, unités de la force multinationale s'emploient à dégager des décombres des deux bâtiments militaires effondrés par les explosions de ce matin, les survivants et les corps des victimes. L'immeuble occupé par une des unités françaises est entièrement détruit. Il y avait, selon les premières indications données par les officiers de la base française, de 60 à 80 soldats présents dans le bâtiment. Une dizaine de corps ont déjà été retirés, mais on craint que le bilan ne soit beaucoup plus lourd.
Le soir même à Paris, le Premier ministre Pierre Mauroy prend la parole.
J'exprime aux familles des victimes mortes ou disparues la douloureuse sympathie du président de la République et du gouvernement. Le ministre de la Défense, M. Charles Hernu, et le général Lacaze, chef d'état-major des armées, viennent de partir pour Beyrouth.
Mais alors qui ? Qui a pu commettre ce double attentat ? Qui est assez fort pour faire exploser à 2 minutes d'intervalle un bâtiment militaire français et un bâtiment américain ? Si vous allumez la radio, on parle de 3 pistes. Les Américains pensent que c'est l'Iran, les Israéliens évidemment que c'est la Syrie, et les Français un montage libano-irano-syrien. Dans les ruines du Drakkar, les opérations de sauvetage durent toute la nuit. Et au petit matin, on a sorti 23 cadavres. Mais il manque encore 40 soldats à l'appel. Le lendemain matin, à 7h, un avion Falcon aux armes de la République française se pose sur le tarmac de l'aéroport de Beyrouth. On avance une passerelle, la porte de l'avion s'ouvre, c'est le président Mitterrand qui en sort. Costume gris, cravate bleu sombre, teint pâle, Mitterrand est accueilli au pied de la passerelle par le président du Liban, Amin Gemayel. Jusque-là, la visite avait été tenue secrète. Le président français va d'abord se recueillir devant les corps des 23 victimes sorties des décombres. Et juste après, il se rend sur place, sur les lieux de l'attentat, alors que les opérations de secours se poursuivent. Et le président entend de ses oreilles les râles des parachutistes encore prisonniers des décombres et les hurlements de ceux qu'on arrache à la pierre. Il est livide. Il parle aux soldats, il parle aux officiers, il est en colère. Est-ce qu'il ne fallait pas étaler ce cantonnement au sol ? Peut-être, monsieur le président. Est-ce qu'on a disposé des sacs de sable pour protéger l'accès ? Oui, monsieur le président. Et ensuite, Mitterrand rentre à Paris, et le soir même, il intervient depuis l'Élysée.
À tous, je dis qu'un pays est grand par sa force d'âme, par sa résolution, comme par les amitiés et le respect qu'il mérite. C'est pourquoi, au Liban, la France reste et restera fidèle à son histoire et à ses engagements. La France ne défend pas autre chose que la paix.
Il faut 4 jours pour dégager les derniers survivants et finir de compter les cadavres. 58. L'attentat a fait 58 morts dans le camp français. Quelques officiers, mais aussi beaucoup d'appelés. Des gamins de 20 ans qui faisaient leur service. Du côté des Américains, le bilan est encore plus lourd. 241 Marines ont été tués. Alors qui ? Qui a fait sauter le Drakkar ? Et comment ? Et qui a balancé cette voiture piégée sur le cantonnement américain ? Qui ? Qui est assez fort pour avoir monté ce double carnage ? Côté français, c'est le patron des soldats basés au Liban, le général Bernard Serpol, qui est chargé de l'enquête. Et je vous l'ai dit, côté américain, on sait déjà que c'est une voiture piégée qui a foncé sur le QG des Marines. Une camionnette Mercedes jaune qui a forcé l'entrée du bâtiment, qui s'est enfoncée dans le sous-sol et qui a explosé. Mais qu'est-ce qui a détruit le camp français ? Les hommes du général Serpol recueillent assez vite le témoignage d'une femme de ménage philippine qui travaillait dans un immeuble à côté et celui d'un employé de bureau. Ils ont vu un pick-up Toyota rouge foncer sur le dracard.
Le pick-up, il livrait des marchandises. On le connaissait, on le voyait depuis 15 jours. Il passait dans le quartier le matin.
Les spécialistes évaluent à 250 kilos la masse d'explosifs utilisés pour faire sauter le dracard. Mais reste à trouver qui a perpétré ces attentats. Fin octobre, le chef du bureau de la CIA à Paris, John Seidel, vient voir le patron de la DGSE, l'amiral Lacoste, à la piscine, le siège des services de renseignement français, boulevard Mortier, à Paris.
Pierre, nous avons un document qui va vous convaincre de l'implication de l'Iran, jusqu'au cou, comme vous dites. L'attentat a eu lieu le 23 octobre. Eh bien, la veille, le 22, nous savons que le groupe Amal s'est réuni à Beyrouth, dans le quartier chiite, dans cette maison. Regardez la photo. Ce sont eux qui ont commis l'attentat, nous en sommes absolument certains. Et derrière, comme vous le savez, il y a l'Iran.
Les agents de la DGSE vérifient, et ça se confirme. Une réunion du groupe Amal, proche des Iraniens, a bien eu lieu à Beyrouth la veille de l'attentat. Et donc assez vite, les Français sont sur la même ligne que les Américains. Les deux attentats ont été réalisés par la milice chiite Amal, et derrière, il y a l'Iran. Et ça n'est pas vraiment une surprise. Au moment des attentats, l'Iran et l'Irak sont en guerre. Et dans cette guerre, la France soutient l'Irak, sans se cacher. Le Canard enchaîné a révélé il y a quelques mois que la France met à disposition de l'Irak des avions de chasse, des super étendards, avec des pilotes pour les piloter, et des missiles Exocet. Donc ça explique tout. Les Iraniens se sont vengés. Dix jours après l'attentat, une cérémonie est organisée aux Invalides, à Paris, pour les 58 soldats français tués dans l'explosion.
Parachutiste Schmitt, nous vous conférons la médaille militaire. Parachutiste Potencier, nous vous conférons la médaille militaire.
La scène clé de cette affaire se joue juste après cette cérémonie. Mitterrand rentre à l'Élysée. Et il fait venir dans son bureau le ministre de la Défense, Charles Hernu, son chef d'état-major particulier, le général Saulnier, et le directeur de la DGSE, l'amiral Lacoste.
Le dracard est l'œuvre de l'Iran. Nous en sommes certains maintenant. Alors je vous demande de mener une opération de représailles. Pas pour se venger, mais pour éviter que ça se renouvelle.
Oui, vous avez bien entendu. Le président de la République française vient de demander à la DGSE d'organiser une opération de représailles. La France va se venger. Le patron de la DGSE, l'amiral Lacoste, se tourne alors vers le chef de son service action, le service chargé des sales boulots de la République.
Le président veut des représailles. Alors qu'est-ce que vous suggérez, colonel Laure Blanchez? Eh bien écoutez, œil pour œil, dent pour dent. L'Iran a une ambassade à Beyrouth. On va la faire sauter. Entendu. Le président veut aller très vite. Il faut absolument frapper avant la CIA.
Bien. Eh bien, écoutez, nous montons l'opération dès maintenant.
Le chef du service action de la DGSE rassemble alors une vingtaine d'hommes, des commandos, des tueurs à gages de la République, basés à Sercotte, près d'Orléans. Et le 5 novembre 83 à l'aube, ils embarquent dans un avion Transal, direction Beyrouth. Ils emportent avec eux 600 kilos d'explosifs et des détonateurs. Quand ils débarquent à Beyrouth, les 20 commandos du service action n'ont pas dormi depuis deux jours. Ils s'installent dans l'un des bâtiments de l'armée française, baptisé la frégate. Le temps est compté. Le président veut absolument que la France passe à l'action avant les États-Unis. Et donc, l'attentat aura lieu demain matin à l'aube. Demain matin, sans aucune préparation.
La DGSE dispose certes des plans de l'ambassade iranienne et des agents sont allés faire un repérage rapide. Mais c'est tout. Voilà le plan. Les hommes du service action entrent dans l'ambassade, par les sous-sols. Ils posent une douzaine de charges explosives. Ils ressortent et boum ! Normalement, l'immeuble doit s'effondrer. Le lendemain, à 6h du matin, le commando du service action s'approche de l'ambassade d'Iran. Mais à partir de là, rien ne va se passer comme prévu. D'abord, il y a des gardes. Une vingtaine de gardes armés postés en faction à l'étage, qui ont l'air de disposer d'une mitrailleuse. Le mur d'enceinte est beaucoup plus haut que prévu. Les Iraniens l'ont rehaussé avec des parpaings. Et les maisons voisines sont plus proches que le commando ne l'imaginait. Et surtout, les militaires français pensaient agir dans le noir. Il y a des projecteurs allumés partout. On y voit comme en plein jour. Bref, les hommes du service action comprennent qu'on les a envoyés au casse-pipe. Alors ils décident d'annuler l'opération et de rentrer à la caserne. Et de retour à la frégate, les commandos s'installent dans le gymnase pour dormir quelques heures. Et là, le colonel Laure Blanchès, le patron du service action, prévient Paris que l'opération a été annulée.
Colonel, je vous le répète, le président veut agir avant les Américains. Donc vous organisez une nouvelle opération, immédiatement.
Mais enfin, amiral, il nous faudrait 48 heures minimum.
Pas question. Nous voulons une action dès ce soir.
Le colonel rejoint alors ses hommes dans le gymnase. Il les réveille.
Désolé les gars, on remet ça ce soir même. Qui est volontaire ?
Ils sont 8 volontaires. Le plan est différent de la veille. Ils vont bourrer une Jeep avec 600 kilos d'explosifs, la gare est devant l'ambassade et 15 minutes après, boum ! À la nuit tombée, c'est parti. Le commando s'approche de l'ambassade à bord de 3 jeeps, dont celle qui est bourrée d'explosifs. Une fois arrivés aux abords, 2 hommes sont chargés de faire diversion. Ils vont dans un terrain vague juste à côté et ils tirent une roquette en direction d'un balcon de l'ambassade. Et immédiatement, les gardes iraniens se mettent à riposter. Au même moment, d'autres membres du commando détruisent les lampadaires et les projecteurs. Et 2 hommes vont garer la jeep piégée devant l'ambassade. Ils arment le détonateur, à retardement, et ils rejoignent leurs camarades et tout le monde évacue en direction du port. La Jeep doit exploser dans 15 minutes. Mais au bout d'un quart d'heure, rien. 20 minutes, toujours rien. La bombe n'a pas été correctement amorcée.
Putain, c'est pas vrai! Allez, bon, on y retourne! Faut faire péter cette Jeep!
Les 2 Jeeps reprennent alors le chemin de l'ambassade iranienne et une fois sur place, ils balancent 2 roquettes sur la Jeep, mais elles atteignent l'avant du véhicule et la bombe est à l'arrière. C'est la Skoumoun. À ce moment-là, alertés par les tirs de roquettes, débarque une patrouille de l'armée libanaise. Elle encercle la Jeep en feu. C'est foutu. Le commando du service action de la DGSE rentre à la frégate, la queue entre les jambes. Pour la 2e fois. Et le lendemain, humiliation suprême, les Libanais viennent leur rendre la Jeep. Heureusement que c'est un pays ami. L'opération est annulée. Le commando de la DGSE rentre à Paris. Autant vous dire que Mitterrand est furibard. Il veut toujours sa vengeance. Le 12 novembre, le président américain Ronald Reagan fait passer un message à Mitterrand. Nous comptons frapper l'Iran entre le 16 et le 19 novembre. Nous souhaitons mener une action commune avec la France. Mais le président français, lui, il ne veut pas d'opération commune. Il veut une opération française, bien identifiée. Et elle sera donc militaire. Le 17 novembre, 8 avions français décollent du porte-avions Clémenceau, stationné au large de Beyrouth. Ils ont pour ordre de bombarder 2 bâtiments, un hôtel et la caserne Cheikh Abdallah à l'est de Beyrouth.
deux bâtiments qui hébergeraient une centaine de militaires iraniens et des miliciens du groupe Amal. Ils arrivent sur zone, les chasseurs français commencent à essuyer des tirs de missiles anti-aériens et ils lâchent une trentaine de bombes. Juste après, la DGSE envoie une équipe sur place pour évaluer les dégâts. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Il y a beaucoup de survivants, beaucoup trop de survivants. Le bombardement n'a pas fait plus de 30 morts. Et dans la foulée, le chef de la milice Amal, Hussein Moussaoui, ricane.
Le bombardement a fait un mort et deux blessés. La caserne a été évacuée avant les tirs, c'est tout.
Et la presse libanaise elle-même se moque des Français. Raid des super-étendards sur Baalbek, un âne et deux chèvres tués. Mais au cours du Conseil des ministres qui suit, Mitterrand assume.
Il y a eu un certain étonnement devant cette mesure, qui a été dure à prendre, qui a été exécutée dans des conditions risquées et qui a été réussie par rapport à ses objectifs.
Réussi, pas tant que ça. Le 21 décembre, nouvel attentat contre une caserne française à Beyrouth. Un camion piégé qui fait un mort et 16 blessés parmi les parachutistes. Et encore un attentat le 9 janvier, devant l'ambassade de France. Un légionnaire tué. Il faut des mois et des mois d'enquête pour identifier les commanditaires de l'attentat du Drakkar.
Monsieur le Président,
nous pensons avoir identifié le cerveau. Imad Mougenié, c'est un Libanais, 22 ans. Il travaille pour les Pasdaran, les gardiens de la révolution iranienne. Imad Mougenié, c'est donc lui maintenant l'objectif de la vengeance française et américaine. Alors qui est cet Imad Mougenié? D'après ce qu'a pu apprendre la DGSE, c'est un Libanais de 22 ans qui aurait été recruté par les Iraniens pour diriger la branche armée du Hezbollah, une organisation secrète libanaise à la solde de l'Iran. Maintenant, c'est lui la cible. Il faut l'éliminer, ou mieux, le capturer. Seulement voilà, le garçon n'est pas un enfant de cœur. C'est un agent secret surdoué, une sorte de Jason Bourne à l'iranienne, une anguille, et d'ailleurs on le surnomme celui qui ne dort jamais. Il ne passe jamais deux nuits au même endroit. Il porte toujours un pistolet à la ceinture, il est protégé par des hommes armés jusqu'aux dents, il dispose de beaucoup d'argent et sa maison dans un quartier pauvre du sud de Beyrouth est gardée en permanence par des miliciens. En décembre 1985, la CIA fait savoir à la DGSE que selon ses informations, Mougenié est de passage à Paris. On le cherche dans tout Paris. Pas de Mougenié. Rebelote, six mois plus tard, en mai, la CIA le signale en France. Pasqua envoie la DST surveiller l'hôtel où il est censé descendre. Chou blanc. Mais en vérité, est-il certain que les Français veulent vraiment la peau de Mougenié? C'est pas sûr. Les Français sont bien embêtés. Il y a eu beaucoup d'enlèvements d'otages français au Liban ces derniers mois. Carton, Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, ça vous dit quelque chose? C'est le Hezbollah qui les a enlevés. Alors l'équation est simple. Si on désingue Mougenié, les otages sont fichus. Donc, prudence. D'après ce qu'on croit savoir, ce sont finalement les Israéliens qui ont eu la peau de Mougenié. Mais très 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 longtemps après, en 2008, ça se serait passé à Damas, en Syrie, le 12 février 2008. Ce jour-là, Mougenié sort de l'une de ses planques, il monte dans un 4x4 BMW, il a rendez-vous avec le président syrien Bachar el-Assad. Il tourne la clé de contact, il fait quelques mètres et boum ! Ça n'était pas son 4x4. le Mossad israélien l'avait échangé contre une voiture piégée absolument identique. Il serait même allé jusqu'à reproduire des rayures sur les portières. Mougegni n'y a vu que du feu. 23 ans après le double attentat de Beyrouth, la France et les États-Unis ont été vengés par les services secrets israéliens.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.